Débutons donc ce journal avec les grands titres. De nombreuses victimes à Londres dans l'incendie d'une tour d'habitation. Le bilan provisoire fait état de 12 morts. Une fusillade aux États-Unis fait des blessés, dont un, donc dans un état très critique. C'est le numéro 3 du Parlement. Et la campagne électorale pour les législatives qui continue en France sur front de polémiques autour du ministre de la Justice. Et on débute donc ce journal à Londres avec cet incendie spectaculaire hier soir. Un immeuble de 24 étages a pris feu. Le bilan est lourd. Surtout, il est également provisoire. On parle de 12 morts pour le moment. Il y a également 78 blessés. 40 camions, 200 pompiers ont été mobilisés sur les lieux. L'incendie a détruit l'immeuble du deuxième étage jusqu'au dernier. Reportage sur place avec Muriel Delcroix, donc depuis Londres.
La tour Grenfell n'est plus désormais qu'un bloc noir calciné et les pompiers avouent n'avoir jamais connu pareil incendie depuis 30 ans. Des rescapés ont raconté avoir été réveillés non pas par des alarmes incendies mais par les cris de leurs voisins et ont tout juste eu le temps de s'échapper. D'autres n'ont pas eu cette chance, comme le raconte cette habitante qui réside dans une tour voisine.
It was that quick.
Tout est allé si vite. Ces gens étaient pris au piège. Ils essayaient d'attirer l'attention des pompiers. Ils appelaient, ils criaient au secours. À la fin, les pompiers disaient simplement aux gens de mettre un linge mouillé sur leur visage et de s'échapper parce qu'ils ne pouvaient pas les sauver, ils ne pouvaient pas les atteindre.
Au-delà du choc et de l'émotion, il y a aussi beaucoup de colère car les instructions de la police ont semé la confusion, comme le raconte ce jeune homme dont la tante a pu sortir indemne avec sa famille.
Ils disaient aux gens de rester chez eux parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient contenir l'incendie. Je suis vraiment soulagé que ma tante n'ait pas obéi à la police et soit finalement sortie. Sinon, je ne sais pas où elle et ses 5 enfants seraient aujourd'hui.
God knows anywhere. On ne connaît pas encore l'origine du sinistre, mais beaucoup de résidents pointent les nombreuses négligences de la société qui gérait l'immeuble et se retournent aujourd'hui contre l'inertie des autorités locales.
Voilà, donc Muriel Delcroix pour RFI. Il faut préciser que les habitants de cet immeuble étaient rassemblés en collectif, en association, et ils pointaient depuis plusieurs années les défauts d'entretien et de sécurité de l'immeuble. Et aujourd'hui, la colère monte parmi eux. David Collins, écoutez-le.
90% des résidents avaient signé une pétition à la fin de 2015 pour se plaindre de la mauvaise gestion, des erreurs de l'entreprise qui s'occupe du bâtiment et pour demander une enquête indépendante. J'ai été personnellement menacé par le gérant parce que nous essayons de soulever ces problèmes. Nous sommes allés au comité de surveillance de l'arrondissement pour notifier nos préoccupations et leur demander de mener une enquête et ils ont refusé. Nous avions l'habitude de dire que il faudra une tragédie avant que les gens ne se réveillent et avant que les personnes qui gèrent le bâtiment ne soient tenues pour responsables. La vérité, c'est que lorsque je me suis réveillé, je n'ai pas été surpris. Je n'étais pas surpris, j'étais choqué, terrifié, mais pas surpris. Si les mêmes inquiétudes avaient existé dans une partie riche du quartier de Kensington et Chelsea, elles auraient été résolues, mais ici, elles n'ont pas été réglées. Il s'agit d'une communauté multiethnique, multiculturelle et diverse qui n'a jamais été respectée par les personnes qui la représentent.
Voilà donc les propos traduits de David Collins. Il est membre de l'association des habitants de la tour qui a donc été pris par cet incendie hier à Londres avec le bilan, je vous le rappelle, 12 morts et 78 blessés. 13h05, direction les États-Unis. Maintenant, une fusillade qui pourrait relancer le débat sur les armes à feu à Alexandria, c'est dans la banlieue de Washington. Le bilan est de 5 blessés, mais dans le bilan, donc il y a des personnalités politiques qui étaient visées, dont le numéro 3 de la Chambre, le Parlement. Il s'appelle Steve Scalzis, comme l'explique Anne-Marie Capomaggio.
Les élus républicains s'entraînaient pour un match de baseball de charité entre parlementaires. D'après le FBI, qui est désormais responsable de l'enquête, il s'agit de l'acte d'un tireur isolé qui a été tué par les forces de l'ordre. La vie des blessés n'est pas en danger. Le gouverneur démocrate de Virginie s'est immédiatement rendu sur les lieux. Terry McAuliffe a rappelé que chaque jour aux États-Unis, 93 personnes sont tuées et plus de 200 blessés par arme à feu.
Nous avons beaucoup trop d'armes en circulation. Le contrôle des antécédents devrait combler les failles. Ce n'est pas le débat du moment, mais j'en parle tous les jours car c'est un problème très sérieux.
Ni le FBI ni la police locale n'ont donné de détails sur les éventuelles motivations du tireur, acte de violence au hasard ou fusillade ciblée sur des élus républicains. Toutefois, le représentant de l'Illinois, Rodney Davis, qui se trouvait sur place, franchit le pas.
Il y a tant de haine dans les débats politiques en Amérique en ce moment. Cela doit cesser. C'est pour ça que je témoigne, alors que je suis encore ensanglanté. Je n'ai même pas eu encore le temps de me changer. Il est important de porter ce message. Cet acte est peut-être le premier acte de terrorisme politique. Et cela doit cesser.
C'est tout le Congrès américain qui est choqué par cette affaire. À 16h, temps universel, les élus de tous bords se sont réunis pour une prière. Les travaux du Sénat et de la Chambre ont été ajournés.
Et c'était Anne-Marie Capomaccio, donc à Washington pour RFI. D'ailleurs, sur cette fusillade, écoutez le commentaire de Bernie Sanders. Il était, je vous le rappelle, le candidat à l'investiture démocrate contre Hillary Clinton l'année dernière. Et il se dit dégoûté de ce qu'il vient de se passer. On l'écoute.
I am sickened by this despicable act. Violence of any kind is unacceptable in our society. And I condemn this action in the strongest possible terms. Real change can only come about through nonviolent action, and anything else runs counter to our most deeply held American values.
Voilà donc le sénateur américain Bernie Sanders. En Australie, maintenant, les changements sur le test de la citoyenneté devraient passer devant le Parlement aujourd'hui, avec, je vous rappelle, plusieurs mesures qui font parler d'elles, comme d'ailleurs bien un meilleur niveau d'anglais demandé, ou encore l'augmentation de pouvoir, l'attestation du pouvoir du ministère, ministère qui pourrait avoir le droit de veto, donc refuser ou non des migrants, même s'ils satisfont tous les critères. D'après Chris Bowen, s'il est le porte-parole de l'opposition sur ces questions, son groupe fera très attention aux termes employés dans toutes ces nouvelles mesures. On l'écoute.
Immigration minister's been standing at the dispatch box, bellowing about Labor voting for legislation he hadn't introduced and we had not seen. So we'll of course now take the opportunity to examine the legislation and take it through our normal party processes.
Voilà donc Chris Bowen de l'opposition. On reste en politique, mais direction la France maintenant. Et c'est un ministre de la Justice affaibli qui a présenté sa loi de moralisation du monde politique. Alors qu'il est confronté à des soupçons d'emploi fictifs au sein même de son parti, François Bayrou prévoit, entre autres, surtout pour l'emploi de parlementaires, de membres, il prévoit d'interdire donc l'emploi de membres de votre famille pour les parlementaires. Et il revient donc sur les problèmes qu'il a en ce moment. C'était au micro de RTL, on écoute François Bayrou.
Où avez-vous vu une règle ?
Eh bien, celle qu'a édictée hier matin, Premier ministre.
Non, c'est pas du tout de cette manière qu'il s'agit. Il se trouve que je n'ai pas ce type de relation avec le Premier ministre. Nous sommes dans la même équipe, nous travaillons ensemble, et j'ai tout à fait l'intention que cette relation de confiance s'exprime et dure. Je ne défie personne, je suis trop détendu pour cela. Il se trouve que la responsabilité et la franchise sont conciliables. Je vais même vous dire mieux. Je suis persuadé qu'au sein d'une équipe politique, il faut avoir de la liberté de parole.
Voilà donc le ministre de la Justice, François Bayrou. Et les critiques commencent à fleurir, normal, hein, vous me direz, on est en période d'entre-deux-tours des législatives. On écoute François Bayrouin, le chef de liste de la campagne des Républicains.
Si on regarde les premiers pas de ce gouvernement, c'est assez spectaculaire. Sur les reports de décisions, le compte pénibilité, la retenue à la source, si on regarde le nombre d'affaires qui sont lancées contre des piliers de la Constitution, de la future majorité qui va être une majorité absolue et écrasante entre En Marche et son secrétaire général et le Modem qui est l'allié puissant de la construction de cette majorité. Mais quand on voit en plus que le numéro 2 du gouvernement prend à témoin l'opinion publique sur les désaccords qu'il peut avoir avec le numéro 1 du gouvernement, le Premier ministre. Franchement, c'est un gouvernement qui est déjà à la peine sur beaucoup de sujets. Monsieur Bayrou, nous on le connaît. Je souhaite beaucoup de courage à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Voilà donc François Bayrouin pour les Républicains. Je vous rappelle que vous votez si vous êtes français et si vous êtes inscrit sur les listes des électorales. Vous devez aller voter dimanche. En France toujours, et des rebondissements surprises dans l'affaire du petit Grégory, cet enfant qui avait été retrouvé noyé en France avec les pieds et les mains liés. 5 membres de sa famille sont actuellement entendus par la police plus de 30 ans après les faits. On écoute le reportage de Franck Alexandre.
L'affaire Grégory, sans nul doute, l'une des plus grandes énigmes criminelles, un dossier sans équivalent, même le double meurtre d'enfants à Montigny-lès-Metz 30 ans après les faits, s'est soldé en mai dernier par une condamnation, celle de Francis Holm, dans l'affaire du petit Grégory. Rien, pas de piste, pas de mobile. Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory Villemain, 4 ans, est découvert, pieds et mains liés, dans la Vologne, un cours d'eau des Vosges. La lettre d'un corbeau revendique le meurtre et invoque une vengeance. La presse s'empare de ce crime nimbé de mystère, d'autant plus que les enquêteurs se révèlent incapables de dénouer l'échille de ce fait divers atroce. Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, est d'abord soupçonné, incarcéré, avant d'être blanchi, mais convaincu de sa culpabilité. Jean-Marie Villemain, là-bas, d'un coup de fusil, à l'été 1985, le juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, opère un spectaculaire revirement. Il soupçonne Christine Villemain, la mère du garçonnet. En 1993, elle sera innocentée au terme d'un non-lieu retentissant pour absence totale de charge. L'erreur judiciaire est admise. L'enquête redémarre en 2008 avec comme dernier espoir de nouveaux prélèvements ADN sur les scellés qui ont peut-être aujourd'hui permis à la vérité d'éclater.
Voilà donc Franck Alexandre pour RFI, une affaire à suivre. 13h et presque 12 minutes, on va faire un tour d'horizon météo en cette fin de journal. À Perth, il fera 21 degrés, Adélaïde 18, Melbourne 15, Hobart 16, Canberra 14, Sydney 20 degrés, Brisbane 22, Cairns 26 et à Darwin un très agréable 31 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. De nombreuses victimes à Londres dans l'incendie d'une tour d'habitation. Le bilan provisoire fait état de 12 morts et 78 blessés. Une fusillade aux États-Unis fait des blessés, dont un dans un état très critique. C'est le numéro 3 du Parlement américain. Et la campagne électorale pour les législatives qui continue en France sur fond de polémiques autour du ministre de la Justice. Vous venez de l'entendre.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench